Radio Okapi.
Le programme du gouvernement Soumino a été déposé hier au bureau de l'Assemblée nationale par la première ministre avant l'investiture de son gouvernement prévue en début de semaine prochaine. C'est un programme qui s'inscrit dans la ligne du programme du deuxième quinquennat du chef de l'État, selon Judith Soumino. Dans ce journal, les propos de la première ministre de la RDC. Julien Paluku demande aux Nations Unies de reconnaître le génocide commis à RDC et d'en poursuivre les auteurs. L'expert en management des conflits dans la région des Grands Lacs et ministre congolais du commerce extérieur s'est exprimé hier à la conférence débat organisée à Kinshasa par l'église du Christ au Congo sur les conflits à l'est de la RDC et dans le Grand Bandundu. Objectif, faire connaître au monde entier les atrocités qui se passent en RDC. Trésor Kibangula, analyste politique et directeur du pilier politique à l'Institut de recherche Ebouteli, est l'invité de la rédaction ce matin. Il va parler de l'enquête publiée par cet institut ainsi que le groupe d'études sur le Congo Tchèque et l'Institut de sondage Bercy sur la perception des Congolais de l'état actuel du pays. Bonjour à tous. Le gouvernement Judith Soumino est sur le point d'être investi au début de la semaine prochaine. La première ministre a déposé hier au bureau de l'Assemblée nationale le programme de son gouvernement. Nommé sur ordonnance présidentielle le mercredi 29 mai dernier, le nouveau gouvernement se présentera à la plénière pour défendre son programme dont l'analyse et le débat seront focalisés sur la représentativité territoriale des actions qu'il prévoit. D'après la première ministre, ce programme a été conçu afin de répondre aux 6 piliers du programme du deuxième quinquennat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qu'il avait dévoilé lors de son investiture en janvier dernier. Judith Soumino Toluka donne l'économie de ce programme au micro de Michel Kifindangoy.
Je suis venu aujourd'hui accomplir mon devoir constitutionnel en déposant le programme du gouvernement sur la base de laquelle ce gouvernement va être investi. Nous avons travaillé sur base de 6 engagements du chef de l'État tels qu'il les a libellés au moment de sa campagne électorale et au moment de son investiture. Dans nos priorités, il y a notamment la nécessité de créer plus d'emplois, d'améliorer le pouvoir d'achat de la population congolaise, d'avoir plus d'infrastructures en termes de routes terrestres, voies fluviales, voies aériennes, chemins de fer, nécessité aussi d'améliorer les questions en rapport avec le renforcement des capacités humaines. Donc là, on va toucher notamment au renforcement de l'administration au niveau de la fonction publique notamment, plus de justice, un meilleur accès à la justice et aussi une amélioration du climat des affaires avec notamment un accent sur la lutte contre la corruption et sans oublier la nécessité aussi de travailler sur les questions environnementales parce que le changement climatique a un impact sérieux.
Faire connaître au monde entier les atrocités qui se passent en RDC, c'est l'objectif principal de la conférence débat organisée hier ici à Kinshasa par l'église du Christ au Congo avec comme thème les conflits à l'est de la RDC et dans le Grand Bandundu. Julien Paluku, expert en management des conflits dans la région des Grands Lacs et ministre congolais du commerce extérieur, demande aux Nations Unies de reconnaître le génocide commis en RDC et aussi d'en poursuivre les auteurs afin qu'ils soient punis. Il le dit au micro de Paul Matendo.
L'objectif pour lequel nous saluons l'Église du Christ au Congo de cette conférence, c'est pour permettre au monde entier de connaître davantage ce qui se passe en République démocratique du Congo et ne plus avoir la sourde oreille parce que ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, ce qui se passe dans la bande de Gaza aujourd'hui est moins que les atrocités vécues en République démocratique du Congo. L'Église a pris l'engagement également de devoir aider à mieux communiquer sur la cruauté humaine qui se passe dans les pays pour qu'il y ait une appropriation au niveau général et qu'un jour les Nations Unies reconnaissent le 4e génocide à part celui des Arméniens, à part celui des Juifs et à part celui des Rwandais pour que désormais la RDC soit reconnue comme pays victime de génocide et que les auteurs du génocide soient réellement punis. On ne se limite pas seulement à décréter le génocide, mais également qu'on puisse poursuivre tous ces auteurs de tous ces génocides qui ont été vécus en RDC.
Parlons du service national avec l'inauguration vendredi par le commandant de ce service d'une nouvelle école de 12 salles de classe à Ankoro, village natal de l'ancien président Laurent Désiré Kabila. C'est un hommage à ce dernier, celui qu'on appelait affectueusement Mzé Laurent Désiré Kabila, initiateur du service national. Situé dans le territoire de Manono, dans la province du Tanganyika, cette école a été construite selon le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik sur instruction du président Félix Tshisekedi, dit par les anciens délinquants devenus des bâtisseurs de la nation. Dès la prochaine rentrée scolaire en septembre, cette école devra accueillir 2000 élèves en deux vacations. Elle comprend aussi un bureau de direction, une salle des professeurs et des installations hygiéniques modernes. On écoute le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Il a mis tous les moyens à notre disposition pour construire cette école. Vous venez de la visiter, l'école est totalement terminée. Au mois de septembre, les élèves, les enfants vont profiter de cette école pour apprendre, pour leur apprentissage. C'est un sentiment d'avoir accompli une mission qui me fut donnée par la haute hiérarchie du pays. Et j'en suis fier.
Dans la province de la Tchopo, l'ONG Action pour la Justice, les Droits Humains et le Développement, AJDDH, multiplie les séances de sensibilisation pour l'inclusion électorale des malentendants et des personnes vivant avec albinisme. Après les membres de la société civile, hier, l'AJDDH a mené ce plaidoyer auprès des représentants des partis politiques. Qu'est-ce qui justifie l'intensification de cette campagne de sensibilisation en faveur de l'inclusion électorale de ces deux catégories de la société congolaise? Réponse dans ce reportage de Jacques Moukonkole.
Une cinquantaine de représentants des partis politiques a pris part à cette sensibilisation. Il a été question d'analyser les barrières liées à l'inclusion électorale des sourds et des personnes vivant avec albinisme. Gédidia Mabela, directeur exécutif de l'AJDDH, explique l'objectif poursuivi par cette campagne.
Nous avions décidé d'organiser cette tribune d'expression populaire pour conscientiser les acteurs politiques et les partis politiques sur le fait que les sourds et le PVA sont des citoyens à part entière. Et ce sont des citoyens dotés de beaucoup de compétences, beaucoup de qualités, qui peuvent participer à la gestion de la chose publique comme tous les autres citoyens.
Pour les partis politiques, cette campagne tombe à point nommé car elle balise le chemin vers les futures échéances électorales. Janvier Folo, acteur politique d'Action pour le développement du Congo, conditionne leur inclusion à l'activisme politique dans différents partis politiques de leur choix.
Ils réfléchissent comme nous les autres et les partis politiques comme notre parti politique. Nous sommes prêts à les accompagner s'ils sont, doivent être aussi actifs, être actifs aux activités du parti, aux activités de regroupement, cela fera en sorte qu'il y aura une valeur ajoutée au sein de notre parti et ils seront aussi considérés comme tout le monde.
Les propositions formulées pour gagner le pari de l'inclusion électorale en faveur de ces personnes s'adressent à la fois aux responsables des partis politiques et à la CENI. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Justice à présent, au Kwilu, le tribunal militaire de garnison de Kikwit, siégeant en matière répressive au premier degré, s'est prononcé vendredi sur plusieurs affaires, notamment celle d'une prévenue reconnue coupable d'infraction de terrorisme dans le dossier de vol d'enfants et d'un groupe de bandits déclarés coupables pour terrorisme aussi et mutilation de cadavres. Tous sont condamnés à des peines de 20 ans de prison, ont fait savoir les sources de ce tribunal présidé par le major magistrat Bienvenu Monancelé. Depuis Bandounouville, Irène Boumalouzou.
Parmi les condamnations tombées vendredi au niveau du tribunal militaire de garnison de Kikwit, nous pouvons citer celle qui concerne la prévenue Ndantumbu Nancy, poursuivie pour terrorisme. Les sources proches du tribunal indiquent que cette dame avait kidnappé une fillette âgée de 6 mois dans la ville de Kikwit et l'a amenée au village Kakoy dans les territoires de Bulungu. Elle est condamnée à 20 ans de servitude pénale principale, puis au paiement des dommages et intérêts de 5 millions de francs congolais à la partie civile innocent qui père biologique de l'enfant. Autre jugement, c'est un rapport avec un groupe de 5 criminels dont Moussili Yorovin, Walinda Mahérité, Makunda Le Petit, Makanesh Robert et Mambambu Atta, tous poursuivis pour terrorisme et mutilation des cadavres. Ces jeunes gens ont agressé le mois dernier une famille qui se rendait au cimetière pour l'inhumation et ont coupé les cadavres avec des coups de machette, a-t-on appris des mêmes sources. À l'exception de Mambambu, tous les autres ont écopé de 20 ans de prison, indique le tribunal. Irène Mboma, Bandounouville, Radio Okapi.
La 19e édition de la semaine minière de la RDC, DRC Mining Week, sera organisée du 12 au 14 juin prochain à Lubumbashi, province du Haut-Katanga. En prévision de ce grand rendez-vous minier, les organisateurs ont animé une conférence de presse vendredi dans la capitale du cuivre. À cette occasion, le président de la Fédération des entreprises du Congo FEC, section du Haut-Katanga, a salué cet événement qui permettra aux opérateurs économiques de réfléchir notamment sur la diversification de l'économie congolaise. On écoute de Patrick Mouland au micro de Jean Gandou.
La tribune qui nous est offerte par les organisateurs du Cameroun est une tribune qui peut être saisie et qui peut effectivement déclencher et permettre un déclic. Il faut fortement penser comment permettre à notre économie de se diversifier, comment permettre avec les gouvernements d'avoir une réflexion sans pour autant réinventer ce qui existe, c'est-à-dire des textes légaux qu'il faut uniquement les mettre en pratique. Quels sont les pesanteurs? Comment voulez-vous qu'aujourd'hui nous avons un chef de secteur où il a une retombée de l'exploitation minière dans son entité de 5 millions, 10 millions de dollars? Comment il va la canaliser? Quelles sont les compétences qu'il a autour de lui? Moi, je pense que ce rendez-vous qui permet effectivement toutes ces discussions par les organisateurs est une opportunité pour nous de prendre conscience et de capitaliser cela par des discussions enrichissantes. Et ça peut partir, comme toute chose, avec un premier pas, une prise de conscience, bien qu'il y ait des retombées légales qui soient claires, mais je pense qu'elle vaut tout son pesant d'or.
Au Nord Kivu, la 8e édition du Festival de la communication s'est tenue samedi dans la ville de Beni. Une initiative de la Faculté des sciences de l'information et de la communication de l'Université chrétienne bilingue du Congo, UCBC Beni. Une cinquantaine de journalistes de la ville ont pris part à cette activité qui s'est déroulée en marge de la Journée internationale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai dernier. Marc Marofimbo nous en dit plus.
Au menu des festivités, une conférence débat sur le thème « L'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale actuelle ». Pour les organisateurs de cette activité est une occasion pour les participants de discuter des défis actuels auxquels sont confrontés les médias dans la région de Beni et d'explorer les voies et moyens pour renforcer la liberté de la presse. Daniel Muliro-Kisuba, coordonnateur de la Faculté des sciences de l'information et de la communication de l'Université chrétienne bilingue du Congo, ICBC Beni.
La presse doit être libre. Nous sommes en train de plaider pour que la presse soit libre et indépendante. Nous sommes dans un environnement de guerre. Nous avons la possibilité de ne pas faire bien notre métier, notre travail. Et cela constitue déjà un problème parce que la liberté de la presse, elle n'est pas possible à être manifeste dans ce sens-là. Le gouvernement doit se rassurer qu'il est en train de protéger les professionnels des médias alors qu'ils sont en train de faire leur métier. S'il y a pas mal de journalistes, de professionnels des médias meurent parce que cette liberté de presse n'est pas manifeste dans notre région alors que nous sommes un pays démocratique.
Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, en marge de la Journée mondiale de l'environnement, la Faculté de l'économie et développement de l'Université catholique du Congo a organisé le vendredi une matinée scientifique dans l'amphithéâtre de son campus à Mongafula. Le secrétaire général académique de cet établissement universitaire a convié les étudiants à la conscientisation sur le reboisement et la protection de la terre. Abbé François Yumba est dans ses propos recueillis par Étienne Lissumbu.
Nous voulons donner un message aux jeunes. Vous avez vu, nous-mêmes, nous avons planté des arbres. C'est pour inviter les plus jeunes à penser à l'avenir, à pouvoir eux aussi protéger cette même planète, à protéger l'environnement. Nous sommes conscients au niveau de l'université que notre planète est menacée. Alors, nous sommes appelés à protéger cette planète et en la protégeant, nous protégeons aussi l'homme. Parce que c'est l'homme qui est à la fois destructeur de cette planète qui peut aussi en être de restaurateur. En organisant chaque année une journée de l'environnement, c'est d'abord pour protéger l'environnement, c'est pour en même temps sensibiliser toutes nos étudiantes et tous les étudiants, toute la communauté universitaire à prendre conscience de cette menace qui frappe notre planète Terre et aussi prendre conscience que nous ne pouvons pas évoluer comme hommes sur cette Terre sans prendre soin de cette même Terre.
Toujours à Kinshasa, la restauration des écosystèmes dégradés dans les provinces du Kwango, Haut-Katanga et Lualaba était au centre d'un atelier de deux jours. Ces assises tenues par le ministère de l'Environnement avec l'appui technique et financier de FIDA, Fonds international du développement agricole et du Fonds pour l'environnement mondial, a connu la participation des experts du domaine mais aussi des peuples autochtones. Au terme de cette rencontre, Benjamin Toyirambe a appelé les bénéficiaires à s'imprégner de ce projet pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Benjamin Toyirambe est avec Paul Matindo.
Le message est qu'ils doivent s'impliquer, tout simplement. Ils doivent s'impliquer dans ce qu'on va amener. Là où on trouve qu'il y a des failles, il n'a qu'à dénoncer. Parce que même ces documents du projet, on va les partager avec la base. On va les informer de quoi il s'agit. Donc aussi, et même ils doivent être responsables des activités amenées sur le terrain. Ce n'est pas nous à Kinshasa, non. Moi, je ne peux pas aller, par exemple, faire l'agriculture à leur place, non. Que ce soit des productions, que ce soit des transformations, ils doivent s'approprier de ces programmes. Donc c'est ça le message que donne à ces communautés. C'est pour leur vie et c'est pour notre vie aussi. Parce que imaginez-vous quand ils produisent par exemple les produits forestiers non lignés, ben c'est les champignons, les miels et consorts. Mais nous tous nous en profitons.
Actualité internationale.
5 soldats ont été tués en Somalie dans une attaque menée hier par les islamistes radicaux Shebab à environ 350 km au nord de la capitale Mogadiscio, annonce faite par le gouvernement somalien dans un communiqué.
L'invité.
Le groupe d'études sur le Congo GIEC, l'Institut de recherche Ebouteli et l'Institut de sondage Bercy viennent de publier une enquête d'opinion sur la perception qu'ont les Congolais de l'état actuel du pays. Quels sont les principaux enseignements que l'on peut tirer de ce sondage? Trésor Kibangula, analyste politique et directeur du pilier politique à Ebouteli, s'entretient avec Cynthia Bachizi Nabizana.
Trésor Kibangula, bonjour.
Bonjour.
Un nouveau sondage révèle des Congolais plutôt optimistes sur la marche du pays. Est-ce qu'on peut en savoir plus?
Voilà, parmi les principaux enseignements de cette enquête, on a constaté que les Congolais, malgré les difficultés, malgré la situation sécuritaire préoccupante qui continue à se dégrader à l'Est, malgré les problèmes de pouvoir d'achat à travers les pays, les Congolais continuent à avoir espoir que les choses pourraient aller bien, surtout pour ces deuxièmes mandats du président Tshisekedi. Mais tout de suite, il faut quand même relever aussi qu'on a constaté des différences au niveau des perceptions de l'opinion publique. Si on vit dans des milieux ruraux ou on vit dans des milieux urbains. Et aussi, les niveaux d'éducation permettent de distinguer cette différence des perceptions.
Est-ce qu'on peut avoir des données chiffrées?
On a constaté quand même que autour des 48%, ce qu'on dit près des 50% des Congolais pensent que les pays vont dans la bonne direction. On a constaté aussi que les gens, même si beaucoup nous ont dit qu'ils ont assisté à des fraudes et des problèmes d'irrégularité lorsque les élections de 2023 ont été organisées, on a comme l'impression que les gens se tournent beaucoup plus vers l'avenir pour dire ça s'est passé ce qui s'est passé, maintenant est-ce que les gens ou les responsables politiques qui ont été mises en place pourront faire des choses pour que les pays redécollent. Donc les degrés d'insatisfaction par rapport à l'élection présidentielle est aussi très bas dans beaucoup de pays, dans beaucoup de régions du pays, et la majorité des Congolais restent plutôt satisfaites de la manière dont les résultats de la présidentielle ont été publiés et rendus publics. Donc,
justement, comment expliquer le fait que c'est un sondage qui paraît paradoxal?
En fait, avec les sondages, il faut considérer ou bien prendre les sondages pour ce qu'il est. Il ne faut pas non plus donner plus de valeur, comment dire, à un sondage. Les sondages, c'est une photographie de l'opinion publique à un moment donné. Là, je peux évoluer. Nous, on a appris à Ebouteli à rester humble par rapport aux sondages et aux résultats de sondages. Mais ce qui nous enseigne souvent les sondages, c'est au-delà de nos perceptions immédiates.
Trésor Kibangula, quel crédit accorder à votre enquête? Est-ce qu'au niveau de la méthodologie de l'échantillonnage, est-ce qu'on peut en savoir plus?
Alors, nous sommes un institut de recherche et nous nous appuyons sur l'expertise de Bercy, qui est un institut de sondage très réputé, consulté, par plusieurs organisations internationales ici à Kinshasa. Et Bercy a même des commandes de sondages à l'étranger. Donc, à cette méthodologie, nous sommes partis sur une base de données large de 40 000 numéros des téléphones. On visait un échantillon représentatif de 2000 personnes. Il y a eu un petit taux des non-réponses. Donc, les sondages, les personnes qui ont répondu, les répondants à ces sondages tournent autour des 1800 personnes réparties à travers les pays de manière proportionnelle en s'appuyant, lorsqu'on regarde les proportions des personnes répartie de notre échantillon, ça équivaut à la répartition proportionnelle démographique qu'on peut retrouver même dans des données de la Commission électorale nationale indépendante. Donc on a essayé d'être le plus méticuleux, le plus représentatif possible pour avoir une photographie de l'opinion publique nationale au mois d'avril, parce que le sondage a été réalisé au mois d'avril.
Trésor Kibangula, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Et c'est par cet entretien entre Trésor Kibangula, analyste politique et directeur du pilier politique à Ebouteli, et Cynthia Bachizi Nabiziana qui prend fin à ce journal, un journal présenté par Noëlla Luzitu dans une mise en onde de Polydor Basunga.